Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux alors que vous devriez être tous sur les pistes de ski, si je comprends bien. Nous avons vu la dernière fois que nous assistons actuellement non seulement à un retour de Confucius, et on a pu voir que c'était un petit peu un Confucius à tout faire, mais aussi, plus spécifiquement, à quelque chose qui nous intéresse de plus près, à savoir un retour du texte des entretiens de Confucius, le Luanyu en chinois. Alors, il semblerait que ce texte reprenne du service non seulement du fait qu'il est intimement lié à la figure emblématique de Confucius et bien sûr qu'il jouit d'un statut de texte canonique qui, on l'a mentionné en début de ce cours, en fait l'équivalent un petit peu des évangiles hein, dans l'Europe chrétienne, mais aussi du fait de sa qualité mnémotechnique qui facilite son utilisation. Alors, sa qualité mnémotechnique, elle réside dans le fait qu'il s'agit donc d'un texte assez bref, dont on juge que même des enfants d'un très jeune âge sont capables de le mémoriser en entier. Et ensuite, il est composé donc de fragments de dialogues également très très brefs. Et en plus, comme ce sont des dialogues, ce sont des questions et des réponses très très vivantes. Donc tout ça, évidemment, facilite la mémorisation. Et donc l'utilisation de ce texte, comme on l'a vu la dernière fois, sous deux formes principales, c'est-à-dire sous forme de slogan. Donc on a vu que vous vous souvenez peut-être de ces photos que j'ai rapportées de mon dernier passage à Tufu, donc le lieu natal de Confucius, fin septembre 2007, lors des cérémonies d'anniversaire qui se tiennent donc maintenant annuellement aussi bien à Tufu, donc au niveau local, qu'à Pékin, donc au niveau national, à la capitale. Vous vous souvenez donc de ces banderoles qui étaient montrées lors de ces cérémonies et qui portaient chacune donc une phrase des entretiens de Confucius et qui ont donc ensuite servi pour notamment la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin, donc quelques mois plus tard, en août 2008. Et on a vu que ces slogans ont été choisis non seulement pour leur concision, on a vu que beaucoup étaient formés sur un rythme de 4-4 ou de 3-3, mais aussi évidemment pour leur contenu, puisque il y en a un en particulier qui exalte l'harmonie, qui, je vous le rappelle, est le mot d'ordre politique du moment. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase qui disait donc Li zhi yong he wei gui, c'est-à-dire donc dans la pratique des rites, c'est l'harmonie qui prime. Et vous vous souvenez aussi peut-être de cet autre qui exalte d'une certaine façon une universalité à la chinoise, à savoir Si hai zhi nei, jie xiong di ye, à l'intérieur des quatre mers, c'est-à-dire donc, il faut comprendre, dans le monde entier, tous les hommes sont frères. Et c'est donc ainsi que les gens du monde entier ont été accueillis donc à Pékin donc en août dernier. Une autre utilisation possible et qui remonte à une période très ancienne du texte des entretiens, c'est donc une utilisation à des fins éducatives. Nous avons vu qu'actuellement, dans des structures d'enseignement privées qui veulent se situer en parallèle ou carrément se substituer aux structures scolaires et universitaires établies de type occidental, hein, se forme le projet de prendre les enfants dès leur plus jeune âge pour leur inculquer donc la mémorisation par cœur de certains textes qui ont été spécialement conçus pour la mnémotechnique et, ce faisant, l'éducation morale des enfants. Et j'ai rappelé à cette occasion que les entretiens, avant même d'acquérir le statut canonique qu'on lui connaît, étaient de fait utilisés de cette manière dans l'éducation primaire des enfants dès l'époque Han, c'est-à-dire donc au tout début de l'ère impériale. Et pour vous resituer un peu les choses, ça se passe en gros, très en gros, aux alentours donc du tournant de l'ère chrétienne, c'est-à-dire il y a plus de 2000 ans. Alors l'époque Han, dont je vous rappelle évidemment le caractère emblématique, encore aujourd'hui dans le discours actuel, puisque cette dynastie a donné son nom finalement à l'identité chinoise, hein, puisque actuellement, quand vous étudiez le chinois, vous étudiez la langue des Han, et on vous parle très souvent de l'ethnie dominante Han. Alors, c'est de toute façon, c'est pas la peine de vous poser des questions métaphysiques à ce sujet. Vous êtes Han quand vous n'êtes ni tibétain, ni ouïghour, ni mongol, ni d'aucune minorité ethnique, comme on les appelle actuellement en Chine. Quand vous n'êtes ni ça, vous êtes Han, tout simplement. Voilà. Enfin, un peu chinois quand même. Bien. Alors, dans ces deux formes d'utilisation du lunyu, on voit donc se dessiner un double mouvement, c'est-à-dire donc à la fois un mouvement de haut en bas, hein, c'est-à-dire par exemple dans l'utilisation de certaines sentences à des fins de propagande, hein, et un mouvement de bas en haut, par exemple dans l'utilisation de ce texte comme manuel d'éducation primaire dans le cadre d'initiatives privées et extrascolaires. Et donc, je crois avoir assez insisté sur justement ce double mouvement qui crée donc des situations extrêmement nuancées et extrêmement complexes. Il ne faut pas se faire un tableau schématique en se disant que bon, en Chine, enfin toutes les décisions viennent du haut et le corps social le subit. Là, vous avez quelque chose qui est en fait dans un double mouvement qui s'entrecroise, qui s'imbrique et qui crée donc toutes sortes de nuances possibles. Alors aujourd'hui, nous allons aborder donc une autre manifestation de la massification du regain d'intérêt pour ce texte des entretiens et qui se trouve donc dans un phénomène qu'on peut difficilement ignorer. C'est ce qu'on a appelé donc le phénomène Yutan, qui fait tout simplement des entretiens de Confucius un best-seller. Alors là aussi, veuillez me passer l'anglicisme, mais je crois qu'on peut difficilement faire autrement. Il s'agit ici donc d'un phénomène médiatique qui touche largement donc ce qu'on appelle maintenant les classes moyennes, c'est-à-dire donc la population urbaine de la Chine des grandes villes, notamment au moyen de séries d'émissions télévisées reprises dans des publications très grand public et à tirage justement de best-sellers. Inutile de dire qu'à l'échelle de la Chine, un best-seller, ça représente immédiatement des millions d'exemplaires vendus. Hein. Alors, ce phénomène Yutan, il correspond donc à la fois donc à une émission de télévision et à un livre qu'elle a tiré donc de cette série d'émissions télévisuelles qui s'intitule donc alors vous avez ici donc le nom de cette personne de cette dame Yutan. Et le titre donc de son livre, c'est le Lun Yu Xin De, c'est-à-dire donc littéralement ce que mon cœur ou mon esprit a retenu hein, du Lun Yu, c'est-à-dire donc des entretiens de Confucius. Alors ce titre de Xin De fait référence à une tradition assez ancienne, encore qu'elle ne remonte en fait qu'au disons au début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Autrement dit, nous avons dans le titre déjà quelque chose d'anachronique par rapport aux entretiens de Confucius, qui eux datent en fait d'avant. Le début de l'ère chrétienne. Donc là, on est déjà un petit peu dans l'approximation historique. Alors, vous voyez que vous avez donc en haut de la couverture le sigle que je vous signalais, je pense, la dernière fois, donc le sigle de la télévision, de la chaîne centrale de la télévision chinoise, le CCTV, donc Chinese Central Television. Ça vous montre bien que nous avons ici le résultat donc d'une série d'émissions télévisées. Alors, ce livre est sorti à la suite de la série d'émissions en fin 2006. Fin 2006, il avait déjà vendu plus de 10 millions d'exemplaires, hein, dont 6 millions piratés, hein, dans la bonne tradition chinoise. Deux ans plus tard, il est donc encore dans les 10 titres qui se vendent le mieux en Chine. Alors là, vous avez ici un relevé donc des meilleures ventes qui datent d'octobre 2008, donc relativement récent, hein, qui a été traduit en français. Là, je ne sais pas si c'est... là, je pose la question rituelle à ceux du fond. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Oui. Bien, alors, vous voyez que disons, les trois premiers titres, hein, ou même les quatre premiers titres, portent sur les questions d'automédication, hein, c'est-à-dire, donc, propos sur la santé, compte sur toi-même, non sur les médecins, sagesse pour prévenir les maladies, etc. Hein, donc, vous avez là, en fait, à la fois quelque chose, un retour évidemment de pratiques traditionnelles où les Chinois ont une assez bonne connaissance de ce qui fait du bien. Alors vous avez des produits de pharmacopée, mais vous avez aussi en fait un certain mode d'alimentation, hein, qui assure donc une base enfin de bonne santé. Et dans un pays où on discute encore justement du système de sécurité sociale, de couverture sociale, hein, l'automédication évidemment a son rôle à jouer. Vous avez aussi, bien sûr, en cinquième position, donc un titre concernant donc des problèmes d'économie, hein, la guerre des monnaies, hein, c'est assez parlant comme titre. Et puis ensuite, donc en position 6 et 8, vous avez donc les livres de Yutan, donc sur justement les entretiens de Confucius. Hein. Donc là, vous voyez que 2 ans après sa sortie. Donc, ces livres sont encore dans, comme on dit en anglais, dans le top 10, hein, c'est-à-dire donc dans les 10 titres qui se vendent le mieux. Alors, je voudrais quand même vous signaler donc en 9e et 10e position quelque chose de plus surprenant. Alors, en 10e position, vous avez un titre qui concerne en fait une sorte de vulgarisation historique sur la dynastie Ming. Qui est aussi une dynastie emblématique, un petit peu à la façon de la dynastie Han dont je vous parlais tout à l'heure, emblématique de l'identité chinoise, hein, puisque c'est celle qui précède alors justement la dynastie Manchu, c'est-à-dire une dynastie étrangère qui a régné sur la Chine ensuite jusqu'à la modernité. Donc la dynastie Ming est d'une certaine manière emblématique de cette identité chinoise qu'on a d'une certaine manière perdue avec les Manchus. Et alors en 9e position, là beaucoup plus surprenant, vous avez les méditations de Marc Aurèle. Hein. Là, on peut se poser la question hein, de savoir ce que viennent faire les méditations de Marc Aurèle au milieu donc de l'automédication et de tous ces discours identitaires hein, sur la Chine d'abord. Je me demande en fait s'il n'y aurait pas justement là une mise en parallèle intéressante avec Confucius, hein, puisque on est en train de s'apercevoir que on a beaucoup parlé évidemment du parallèle entre ou de l'opposition entre la Grèce et la Chine, mais en fait, disons dans la philosophie antique, il n'y a pas que forcément que Platon et Aristote, il y a aussi donc les courants épicuriens et les courants stoïciens qui présenteraient peut-être plus d'analogies immédiates donc avec les sagesses antiques chinoises. Enfin bon, ça c'est j'ouvre ça à titre de parenthèse et je la referme pour l'instant immédiatement. Alors donc. Plus que d'un best-seller, on peut parler, donc à propos du livre de Yutan, donc on peut parler d'un véritable phénomène de société qui fait parler de lui même au-delà des frontières de la Chine, hein, même à l'échelle mondialisée, puisque peu après la sortie du livre de Yutan, donc le périodique anglo-saxon The Economist titré sur Confucius fait son comeback, hein, donc Confucius le retour. Hein, donc là, je justifie ainsi donc tous ces anglicismes que j'utilise. Nous sommes vraiment dans un contexte mondialisé, hein, et d'une certaine manière, on n'avait plus vu cela depuis le petit livre rouge. Je pense qu'en Chine, le livre de Yutan, en fait, c'est diffusé à une échelle pratiquement comparable à celle du petit livre rouge, à ceci près que le petit livre rouge se distribuait gratuitement. Hein. Là, il faut quand même l'acheter, hein, le livre de Yutan. Donc, alors, The Economist, hein, ne croit pas si bien dire, puisque les entretiens de Confucius ont été effectivement publiés exactement dans le même format et sur le modèle justement du petit livre rouge. Je voulais quand même vous signaler que le Luanyu existe actuellement dans tous les formats possibles et imaginables, jusqu'au plus miniaturisé. Et là, je voulais vous montrer, disons, à l'échelle, les miniaturisations qu'on peut obtenir donc avec le texte du Luanyu. Alors là, c'est pas encore le plus petit. Hein. Là, je vous ai apporté donc quelques, ça c'est vraiment un modèle de très petites poches. Hein, ça peut se mettre. On peut même cacher ça vraiment dans les endroits les plus secrets. Donc, alors, je n'ai pas malheureusement de photos de cette édition du Le Huy au format du petit livre rouge, mais à défaut, je voulais quand même vous montrer une édition, elle aussi de poche et même de petite poche, qui a exactement le même format que le petit manuel de base du membre du Parti communiste chinois. Hein, là, je vous les montre donc en échelle réelle. Hein, donc, et là, donc, vous les avez en photo. Hein, donc là, vous avez donc quelque chose, un rapprochement assez saisissant. Donc entre d'un côté, donc vous avez une édition évidemment simplifiée du Le Huy avec la tête du vieux sage, hein, et à côté donc tout ce que vous devez savoir si vous voulez faire un bon membre du parti. Hein, et donc vous avez exactement le même format. Hein. Alors. Même si l'aspect commercial transparaît évidemment de manière assez visible, cette popularisation et ce succès médiatique du Le Huy est tout à fait sans précédent et mérite de retenir notre attention, hein, malgré évidemment ce caractère anecdotique, hein, mais c'est tout de même quelque chose, comme je l'ai dit, un phénomène de société. Alors, ce livre de Yutan a été publié dans la foulée d'une série de 7 conférences diffusées sur une semaine, donc une conférence par jour, en novembre 2006 à la télévision chinoise, dans la série que vous voyez mentionnée ici, Paijia Jiangtan, c'est-à-dire une série de conférences populaire, hein, littéralement pour les 100 familles, c'est-à-dire pour le peuple. Alors, notre conférencière, bien qu'elle prétende avoir lu le Le Huy dès l'âge de 4 ans, hein, parce que ça, c'est évidemment c'est un signe qu'elle vient d'un milieu lettré, hein, ça, comme il se doit, on doit connaître par cœur ses entretiens de Confucius dès l'âge de 4 ans, parce que c'est inscrit dans toutes les biographies des grands lettrés. Donc, et bien qu'elle ait le titre de professeur de l'école normale de Pékin, le Beijing Shifan Daxue, hein, cette dame n'est aucunement spécialiste des textes classiques, mais c'est plutôt une experte en communication et en études médiatiques. D'ailleurs, c'est le titre de son diplôme, et c'est aussi la référence d'un de ses livres. Elle est l'auteur d'un livre qui porte le titre de « Image, marque et compétitivité ». Je voulais vous montrer donc en fait la photo de cette dame qui figure donc au dos de la couverture. Hein, vous voyez qu'elle a une tenue vestimentaire et une coiffure tout à fait contemporaine. Et quand on la voit en action donc à la télévision, en fait, elle est vraiment une gestuelle d'executive woman en quelque sorte. Et je vous signale quand même qu'elle a été élue parmi les 3 plus belles femmes de Chine en juillet 2008, hein, juste avant les Jeux Olympiques, très opportunément. Donc. Et donc, de fait, son livre ne s'adresse ni aux spécialistes du sujet, ni aux universitaires, ni aux intellectuels en général, dont beaucoup l'accusent de distordre le sens des entretiens à force de simplification et de réduction. Alors, bien sûr, certaines mauvaises langues prétendent que c'est parce qu'ils sont envieux de ces chiffres de vente, hein, mais enfin, je pense qu'il n'y a pas que de ça. Hein. Alors, ce livre s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde, entendez donc un public pas trop savant et encore moins critique. Comme vous le voyez, il n'est pas très épais, hein. Il fait moins de 120 pages, hormis donc la reproduction du texte des entretiens, Si vous le regardez de près, vous allez voir qu'il est imprimé en très gros caractères, avec des, voyez, enfin des, une mise en page plus qu'aérée. Hein. Et vous avez même, en fait, ça c'est un détail tout à fait frappant. Donc, pour des mots un tout petit peu trop difficiles pour un public non cultivé, vous avez même des transcriptions en pinyin. Donc, donc ça, c'est, ça vous indique que nous avons donc quelque chose qui se veut véritablement populaire. Alors. Le contenu est un petit peu à l'avenant, c'est-à-dire que tout en donnant au passage son interprétation de certains extraits bien connus des entretiens, Yutan donc entretient son auditoire de citations extrêmement éclectiques. Alors ça va de Tagore, de Rabindranath Tagore, donc à Hegel. Elle aime bien aussi parsemer donc son discours donc d'historiettes ou d'anecdotes tirées donc du folklore du bouddhisme zen ou du journal de la veille hein, et qui en général n'ont pas grand rapport avec avec les entretiens. Hein. Donc nous avons en quelque sorte hein, et excusez-moi enfin de comment dire de la trivialité de la chose, mais je suis bien obligée de le décrire comme ça. Les entretiens de Confucius pour les nuls. Hein. Mais ce qui est un petit peu alarmant, c'est que une telle publication, en fait, a été assurée par la Zhonghua Shuju, c'est-à-dire donc l'une des plus vénérables maisons d'édition de livres d'érudition en Chine. Hein. Donc là aussi, excusez-moi, mais essayez d'imaginer les éditions des Belles Lettres publiant Cicéron pour les nuls. Hein. C'est un peu du même ordre. Hein. Bon, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a de vraiment mal hein, dans tout cela hein, puisque, au premier abord, la lecture de Yutan donc, apparaît au mieux inoffensive parce qu'elle est, au fond, très consensuelle et frappée au coin du bon sens. Hein, et on se dit, finalement, pourquoi pas hein, les entretiens ont bien joué le rôle de manuel de conduite pour enfants, pour débutants. Hein. Mais à y regarder de plus près, on s'aperçoit que Yutan est en réalité très habile à capter l'air du temps hein, et à flatter ses contemporains dans le sens du poil. Hein. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut lui reprocher, et ça n'a pas manqué d'être fait, la lecture de Yutan donc tend à dépolitiser hein, les entretiens en passant sous silence les nombreux passages où Confucius se montre critique à l'égard des dirigeants politiques de son temps ainsi que les questions que ces passages peuvent soulever et n'ont au demeurant pas manqué de soulever dans les lectures ultérieures de la tradition intellectuelle chinoise. Alors, cette manière d'utiliser les sources textuelles en y picorant uniquement ce qui va dans le sens d'une thèse prédéfinie hein, ou en faussant le sens premier, hein, c'est bien dans l'air du temps. Hein. Il y a même une expression chinoise hein, pour désigner ce genre de procédé, hein, c'est tuanzhang qui, hein, c'est-à-dire donc découper des passages pour en tirer donc le sens souhaité. Donc là, voilà ce que fait Yutan. Et je voulais vous montrer donc un exemple qui me paraît tout à fait significatif de la manière dont elle traite donc certains passages qu'elle a choisis pourtant exprès. Alors. Donc, pas de panique, je vais vous donner la traduction. Hein. Donc, vous avez ici le fragment du livre 12 des entretiens à la section 7. Hein. Et il s'agit donc d'un dialogue entre le maître, entre Confucius, et un de ses disciples qui s'appelle Zigong, ici. Hein. Alors, ce disciple vient lui demander, Wen Zheng, donc il vient lui demander, alors ça c'est la question type des disciples, c'est-à-dire lui vient lui demander comment bien gouverner. Puisque les disciples en fait sont en d'une certaine manière viennent chercher donc l'enseignement du maître, notamment pour justement assurer savoir comment faire pour assurer la stabilité du corps social, autrement dit pour se former comme on dirait maintenant en gouvernance, en technique de gouvernance. Alors, le maître répond, Ziyue, donc vous avez cette formule qui revient pratiquement en tête de chaque fragment des entretiens de Confucius, et qui introduit donc au discours direct les propos du maître. Donc là, vous avez en fait du discours qui se veut du discours direct, la parole du maître comme si vous y étiez en quelque sorte. Alors voilà ce que répond le maître. Zhu Shi. C'est-à-dire donc il faut qu'il y ait, je traduis de la façon la plus littérale possible, qu'il y ait en suffisance shi, c'est-à-dire de la nourriture, qu'il y ait en suffisance des armes, de l'armement, et il faut que le peuple ait confiance, qu'il ait confiance dans ceux qui le dirigent. Alors, Zigong Yue, donc Zigong, le disciple, reprend, il pose une question plus précise. Bi bu de yi er qu, yu si san zhe he xian. Donc, Zigong lui redemande donc, si on ne peut pas faire autrement que de se passer d'une de ces trois choses, ou plus exactement, si justement on ne peut pas faire autrement et qu'il faut se débarrasser d'une de ces trois choses, ou laquelle serait-ce ? Alors, réponse, Yue, Qu Bing. Alors, la première chose dont on peut se passer, c'est l'armement. Zigong Yue, le Zigong reprend, Bi Bu De Yi Er Qu. Alors, et si parmi les deux choses qui restent, et on ne peut pas faire autrement que de se passer d'une de ces deux choses, laquelle serait-ce ? Et le maître répond, Yue, Qu Shi, Zi Gu Jie You Si, Min Wu Xing Bu Li. C'est-à-dire donc, alors là, sa réponse est évidemment, je veux dire, pas du tout celle qu'on attendrait, on va se passer de la nourriture. Puisque, depuis les temps les plus anciens, nous sommes tous mortels. La mort est avec nous de toute façon. Mais Min Wu Xing Bu Li, c'est-à-dire un peuple qui n'a pas confiance, ne saurait tenir debout. Donc voilà donc notre Madame Yudan donc qui choisit ce passage qui le met donc en valeur, qui le trouve très très signifiant, et on aurait pu penser évidemment que ce serait pour elle l'occasion éventuellement de faire un commentaire sur justement la question de la confiance du peuple chinois dans ses dirigeants, qui, je vous le rappelle, a été quand même fortement ébranlé par le massacre de Tiananmen en juin 1989, et dont, là aussi, je vous le signale, je vous le rappelle au passage, dont nous allons, en quelque sorte, fêter l'anniversaire en juin prochain. Donc, nous aurions pu penser que là, nous tenions au moins un sujet sensible. Alors là, contre toute attente, Madame Yutan donc avance une interprétation bien à elle, très très particulière, de ce que peut signifier donc cette fameuse confiance du peuple. Alors, elle nous dit que pour elle, la confiance du peuple se confond avec son taux de satisfaction. Alors, elle nous dit, page 10, il ne faudrait pas se limiter à mesurer donc le PNB, c'est-à-dire le produit national brut. Yudan donc mentionne, elle, le sigle en anglais, hein, le GNP, c'est-à-dire le Gross National Product. Mais il faudrait aussi mesurer ce qu'elle appelle le GNH, c'est-à-dire le Gross National Happiness, hein, c'est-à-dire le taux, comment dire, de le taux, le produit, comment dire, ou plus exactement le bonheur national brut. Hein. Alors, on pourrait dire le BNB, en fait, en quelque sorte. Hein. Alors, elle poursuit en disant que le taux de bonheur ou de satisfaction ne dépend pas uniquement de la richesse matérielle, mais qu'il y faut aussi une richesse intérieure, et j'emploie ces termes, hein, une richesse intérieure procurée par la paix de l'âme. Hein, alors là, nous voyons surgir un terme, le terme de Xinling, qu'elle emploie à tout va, et qui n'est pas véritablement un terme qui fait partie du vocabulaire, enfin de la philosophie ancienne chinoise, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et alors, au passage, elle en profite pour opérer une sorte de, comment dire, de tour de main, un glissement de sens entre ce mot Xin, hein, qui est tout à fait central dans ce passage, hein, qui veut dire confiance. Hein. Là, vous avez en fait dans la graphie de ce terme le radical donc de l'humain ici. Hein, à gauche et à côté donc le graphème qui veut dire yen, enfin qui se prononce yen et qui veut dire la parole. Hein. Donc enfin d'une certaine manière ici la confiance est fondée sur le fait qu'on tient sa parole, qu'on fait ce qu'on dit. Hein. Bon, je n'établirai pas d'analogie avec notre situation à nous, hein, mais ici nous avons en fait dans le commentaire de Yudan donc un glissement de sens qu'elle opère de façon très très habile entre Xin qui peut se comprendre comme Xinren, c'est-à-dire la confiance qu'on place en quelqu'un. Hein, et qu'elle transforme en xinyang, c'est-à-dire en croyance. Donc elle dit au fond, hein, dans ce passage, ce qui est important, hein, c'est au fond la croyance du peuple, hein, c'est-à-dire donc cette espèce de vie spirituelle, de vie intérieure, qui pour elle est tout à fait fondamentale, et on va voir pourquoi. Hein. Donc, je dirais que sous des dehors extrêmement séduisants et dynamisants, hein, nous avons là une lecture conservatrice qui voudrait amener les lecteurs à la conclusion que le Confucius des entretiens appelle exclusivement à la culture de soi et à l'introspection. Il faut que j'essaye de revenir donc à ces termes que je vous projetais la dernière fois, voilà. Donc elle parle sans arrêt donc de xiuyang neixin, hein, c'est-à-dire donc de cette culture de soi et de cette vie intérieure, de cette introspection. Hein. Alors là aussi, je signale au passage qu'elle commet un anachronisme assez grave, puisque en fait cette dimension donc intérieure a été cultivée essentiellement donc au cours du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Là, elle fait exactement le même anachronisme que dans le titre de son livre. Elle fait de la rétroprojection justement sur le texte ancien des entretiens. Elle rétroprojette quelque chose qui est beaucoup plus tardif. Et d'une certaine manière, elle nous montre un Confucius qui appellerait implicitement à l'acceptation de l'ordre établi, hein, voire à la résignation. C'est-à-dire que son message consiste à dire il faut savoir se contenter de peu dans un monde de compétition impitoyable, ne pas s'en prendre aux causes extérieures quand on subit du tort ou une injustice, mais faire un travail sur soi, autrement dit, ne pas faire de revendications sociales, ne pas récriminer. Elle va même jusqu'à dire savoir pardonner. Alors là, cette question du pardon, j'ai l'impression qu'elle va piquer ça un petit peu ailleurs. Bon, savoir pardonner. Alors pour elle, savoir pardonner, c'est le moyen de réduire le stress. Alors dites-vous bien, ça c'est quelque chose à méditer et à cultiver, n'est-ce pas ? Savoir se faire des amis et les garder, ainsi de suite. Donc nous avons ici, au fond, un message d'accommodement. Alors là, je suis désolée, mais quand on lit les entretiens de Confucius, c'est pas exactement l'impression qu'on a. Alors le préjudice le plus grave, c'est que évidemment ce genre de lecture ne manque pas de conforter donc un préjugé prédominant sur la nature essentielle du confucianisme, qui serait une espèce de morale tiède et consensuelle, faite de modération et de compromis. Avouez que certains d'entre vous pensent que le confucianisme, c'est ça. Alors, je crois que j'ai du travail, parce que je me propose de vous montrer que c'est peut-être un petit peu autre chose. Et alors, donc, ce genre de lecture, évidemment, passe totalement, comme je l'ai dit, sous silence, la dimension de résistance, voire de protestation, qui est une constante dans l'histoire vécue de nombreux lettrés confucéens, que ce soit en Chine même, mais aussi en Corée, au Japon, au Vietnam. Là, vous avez de multiples témoignages, en fait, du fait que l'esprit confucéen est loin d'être un esprit, disons, de béni oui-oui et de compromis tiède. Alors, ce mot d'ordre de Xiaoyang, c'est-à-dire donc de culture de soi, je signale au passage que, et je pense que c'est pour ça aussi que les émissions et le livre de Yutan sont un phénomène de société, parce que c'est un mot d'ordre qui se retrouve dans d'autres entreprises de remoralisation de la société, puisque nous assistons actuellement dans tout le pays à une multiplication donc de centres de formation continue pour enseignants, ça c'est j'ai déjà eu l'occasion de le signaler la dernière fois, avec promotion dans le corps social de ces techniques de culture de soi qui sont à pratiquer donc individuellement. Alors notre Yudan rapporte habilement ce thème de la culture de soi à celui prépondérant dans le discours officiel de l'harmonie. Elle a cette phrase magnifique à la page 9, où elle nous dit « Nous pourrions aussi dire aujourd'hui que les saisons du ciel, les bienfaits de la terre, l'harmonie des hommes sont les fondements de la prospérité de l'État et de la réussite des entreprises. » Alors là, vous avez enfin dans un raccourci absolument grandiose donc toute la cosmologie ancienne avec donc la prospérité économique. Donc voilà ce que nous apprend les entretiens à nous hommes actuels. Nous mettons tous nos efforts à construire une société harmonieuse. Donc là, vous voyez comment, au fond, à partir du texte des entretiens, on en revient donc au mot d'ordre de Monsieur Hu Jintao. Donc là, nous avons, au fond, quelque chose qui a l'air de partir de la base vers le haut. Comme je disais, bottom up. Mais d'une certaine manière, ça rejoint en fait un mouvement de bas en haut, top down. Donc on remarque qu'avec ça, Yutan recourt très souvent à une lecture de type taoïsant, inspirée donc soi-disant du non-engagement de Zhuangzi, pour justement souligner la dimension de culture de soi individuelle toujours au détriment de l'engagement politique. Et là, c'est là que nous en venons justement au cœur du problème. Parce que, à première vue, qu'est-ce qu'il y a de mal, effectivement, comment dire, à pratiquer cette culture de soi, pourquoi pas, hein. Mais en réalité, ce qui se profile derrière, c'est au fond, justement, pour comment dire, ne pas aller dans le sens d'un engagement politique. Et alors là, c'est tout à fait dans l'air du temps. Et enfin, je veux dire cette comment dire ces références taoïsantes. Et c'est surtout un argument de vente, et je dirais presque un argument marketing, hein, de la profusion d'ouvrages que l'on voit actuellement envahir les rayons des librairies, hein, et qui vendent du bien-être corporel ou intellectuel, hein, donc tout ce qui tourne autour de nourrir sa vie, de l'art de la gestion zen à toutes les sauces, hein, là vous n'avez qu'à vous aller dans nos grandes librairies commerciales et vous avez ces rayons extrêmement fournis, donc comment dire, des sagesses, sources de bien-être, alors à la sauce taoïste, bouddhiste, confucéenne, et même, j'ai vu une fois dans une librairie brésilienne, à la sauce kantienne. J'aimerais demander à M. Bouvray ce qu'il en pense. Donc, pour donc en finir justement sur ces arguments de Yutan, donc selon Yutan, la vérité des entretiens, c'est de nous dire à tout un chacun comment mener la vie heureuse dont notre âme, hein, donc encore une fois, a besoin. En termes clairs, les entretiens nous enseignent comment trouver le bonheur de l'âme dans la vie moderne, comment s'adapter à l'ordre quotidien et à trouver ses repères en tant qu'individu. Alors, un autre signe des temps, et j'en terminerai là-dessus, donc Yutan aime bien opposer donc mentalité chinoise et mentalité occidentale, dans une perspective pseudo-comparatiste et parfaitement anhistorique. Là, je ne peux pas résister à l'envie de vous citer donc une phrase tout à fait magnifique où elle nous dit donc, contrairement à l'Occident, alors là, je ne sais pas ce qu'elle entend par l'Occident, la philosophie chinoise exalte un sens du beau empreint de gravité, de rationalité, de douceur et des générosités. Là je traduis littéralement. Donc, alors, autant vous dire que cette mise en vis-à-vis de la mentalité chinoise et de la mentalité occidentale se révèle au fond indispensable à cette posture adoptée par Yutan, qui, aussi paradoxal que ça puisse paraître, se déclare en fait peu favorable la fièvre qui saisit actuellement le grand corps chinois, à savoir celui des études nationales, hein, du Guoxue. Et pour cause, comme on va le voir maintenant, hein, puisque donc le best-seller de Yutan, je vous le disais, sort en novembre 2006. Et très peu de temps après, donc en avril 2007, sort une riposte absolument cinglante, hein, d'un collectif de jeunes chercheurs qui, sous une forme satirique, critique ouvertement Yutan dans un pamphlet, hein, dont la présentation parodie celle du livre de Yutan. Alors là, je crois que c'est important que je vous montre un petit peu comment se présente cette couverture. Donc là, vous voyez, vous avez en fait une couverture qui se présente un petit peu de la même façon, avec le même code couleur, mais avec ici, je ne sais pas si vous la voyez. Donc une représentation un petit peu caricaturale donc de Confucius. En fait, il s'agit en fait d'un dessin caricaturiste taïwanais, hein, donc qui a fait des bandes dessinées. Je vous les signale. Enfin, elles sont en chinois, hein, mais qui a fait des bandes dessinées à partir des classiques confucéens, hein, qui sont assez. Il a mis en bande dessinée, enfin, tous les grands textes de la tradition chinoise, et c'est tout à fait désopilant. Bien. Alors donc ce pamphlet donc s'intitule Kongzi hen zhaoji. Littéralement, Confucius a de quoi se faire du mauvais sang, hein, et Confucius a de quoi s'inquiéter. Et en fait, il s'agit d'un titre qui est en parallèle avec un autre livre, justement de ce même collectif, qui attaque un autre livre de Yutan sur Zhuangzi. Et qui s'intitule Zhuangzi hen shengqi, c'est-à-dire donc Zhuangzi a de quoi être furieux. Hein. Donc là, quand vous mettez les deux titres ensemble, vous voyez que c'est en parallèle et que ça rime. Donc Kongzi hen zhaoji, Zhuangzi hen shengqi. Hein, donc Kongzi a de quoi être inquiet et Zhuangzi a de quoi être furieux. Bon, alors donc le sous-titre donc de ce pamphlet, hein, montre bien que c'est dirigé contre Yutan, puisque vous avez ici le sous-titre qui est donc Cong Yutan Hong Xianxiang Shuoqi, hein, c'est-à-dire donc à partir donc en partant du phénomène de la, comment dire, de la vogue Yutan, donc de ce phénomène de société. Alors dans ce double titre, donc Kongzi hen zhaoji et Zhuangzi hen shengqi, c'est en fait là aussi un slogan qui était inscrit sur des t-shirts donc portaient les auteurs donc de ce pamphlet, hein. Et alors là ces auteurs en fait ont même fait une opération commando, hein, en faisant donc irruption dans une séance de signature donc de Yutan donc en mars 2007 et en la prenant à partie publiquement, hein, avant de se faire donc éjecter manu militari. Donc ils y sont pas allés de main morte. Donc il y a pas simplement ce pamphlet extrêmement rageur, mais en fait ils ont vraiment lancé une opération commando. Alors pourquoi toute cette violence? C'est que donc ce collectif accuse Madame Yutan donc d'avoir dévoyé le grand message humaniste de Confucius en le réduisant à ce qui s'appelle donc de alors là je voulais vous montrer quand même l'expression qu'ils emploient, parce qu'alors là c'est une expression qui est récurrente dans les débats qui se passent par Internet, justement sur ce phénomène Yutan, c'est-à-dire donc ils accusent Madame Yutan d'avoir réduit les entretiens de Confucius à du bouillon de poulet pour l'âme, xin ling ji tang, et donc justement à cette recette de bonheur et de bien-être, hein, et eux-mêmes s'expriment au nom de la défense justement des études nationales, hein, du guoxue, hein, et de ce qu'ils appellent la grande tradition spirituelle du peuple chinois. Et ainsi, ils proclament vouloir revenir à la vérité première des maîtres à penser de l'Antiquité. Mais on va voir que justement, enfin, ces gens qui sont quand même assez, vous voyez, avec des méthodes assez musclées, donc s'expriment en fait au nom justement du retour d'une identité nationale. Et là, je pense qu'ils font partir donc le pendule en fait à l'extrême inverse. Alors selon eux, donc cette vérité première, il est absolument urgent, hein, de la retrouver. Mais ce qui est tout à fait curieux, c'est que ils font coïncider eux aussi, hein, cette vérité première de l'Antiquité chinoise avec le mot d'ordre des dirigeants actuels, justement, de construire une société harmonieuse, hein, en prétendant que ce serait également l'idéal de Confucius. Alors, les auteurs de ce pamphlet donc, présentent leur geste un petit peu comme un geste héroïque de redresseur de tort, hein, et ils s'étranglent véritablement d'indignation. Hein, ils se demandent comment un professeur d'université, hein, comme Yutan, a le front donc, de traiter donc, des études nationales de manière aussi commerciale. Hein. D'une certaine manière, ils l'accusent d'être une sorte de marchande du temple. Hein, puisque pour eux, Confucius est un saint quasi divin. Hein, donc là, vous avez en fait cette revendication qui revient dans le discours justement de ses partisans des études nationales. Hein, Confucius ne peut être autre chose qu'un shengren, c'est-à-dire donc un sage suprême ou un saint ou même quasi divinisé. Hein, puisque c'est un homme qui recherche la vérité et qui est mu par un idéal englobant l'humanité tout entière. Et pour eux, c'est aussi un homme dont l'enseignement a pénétré et s'est fondu, là j'emploie leur terme, hein, et s'est fondu dans le sang qui coule dans les veines de générations de Chinois. Donc là, vous voyez que nous sommes dans une revendication identitaire qui frise l'identité génétique. Hein. Bon, alors, donc il termine justement, enfin de manière assez rageuse, en concluant que finalement. Le confucianisme de Yutan, hein, c'est un confucianisme tianruzhui, c'est-à-dire un confucianisme littéralement de chien, hein, c'est-à-dire on pourrait dire un confucianisme cynique en quelque sorte. Hein. Bien, alors nous avons vu jusqu'à maintenant comment ce retour des entretiens se fait donc sur divers terrains, donc sur le terrain politique, sur le terrain éducatif. Aujourd'hui, nous avons vu un petit peu comment ça se passe donc sur le terrain médiatique, puisque là, nous avons véritablement un phénomène qu'il est difficile de passer sous silence. Et donc, il nous restera à voir la prochaine fois, donc justement, comment ça se passe quand même sur le terrain qui nous intéresse de plus près, à savoir le terrain intellectuel, hein, où là, nous verrons aussi que les échanges sont extrêmement virulents. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.